Camonioc, la parole au monde agricole.
Les agriculteurs installés sur les bassins versants des rivières peuvent-ils continuer à cultiver leurs terres ? Le projet agroécologique Rivage vise précisément à réduire l'impact de l'agriculture sur l'environnement en limitant la pollution de la ressource en eau par les pesticides. Il réunit des chercheurs, ingénieurs et techniciens de 4 organismes, le CIRAD, l'INRA, le BRGM et l'Université des Antilles. Et comme il est financé par le FEDER et la région Guadeloupe, ce projet a été présenté le 31 mai à Capesterre-Belle-Eau dans le cadre du joli mois de l'Europe, au menu diagnostic de la pollution des rivières et des nappes et visite d'une exploitation en conversion parce que située dans le périmètre de protection d'un captage d'eau.
Camonioc. On a constaté des fortes concentrations de pesticides dans les eaux, dans les zones de culture intensive.
Que deviennent les molécules des pesticides épandus autrefois ou aujourd'hui dans les parcelles agricoles ? C'est la première phase de recherche du projet Rivage. Marc Dorel, agronome au CIRAD.
On va voir comment ils se dispersent dans l'environnement, notamment dans les eaux et le sol, à travers une étude qui est conduite sur un bassin versant de la zone de Capesterre. Toute rivière a un bassin versant.
Patrick Andrieux, hydrogéologue à l'INRA.
C'est un territoire géographique qui est délimité par une ligne de crête, donc des points hauts, qui vont délimiter un bassin, donc quelque chose qui est plus ou moins circulaire ou plus ou moins allongé, et versant, parce qu'il y a des pentes, ça veut dire qu'en fait, l'eau, elle va couler sur ces pentes. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'il y a un point qu'on appelle l'exutoire, c'est la sortie des eaux. Toutes les eaux vont converger vers ce point, donc toutes les gouttes de pluie qui vont tomber sur ce territoire, sur le bassin versant, vont être concentrées, vont être récupérées par les différents bras de la rivière et vont passer par l'exutoire.
Les prélèvements effectués par l'INRA vont donc permettre de savoir que transporte l'eau qui traverse les cultures.
Sur le bassin versant, on va faire des mesures sur les différentes composantes de ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Donc le fait que la pluie, lorsqu'elle va tomber, elle va se transformer en ruissellement ou infiltration et rejoindre ensuite les rivières. Et nous, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on va mesurer les concentrations en pesticides sur ces différentes composantes. On va mesurer la concentration des eaux de ruissellement, pour ce qui nous concerne, et la concentration dans les eaux de la rivière.
L'étude est menée à Capesterre-Belle-Eau sur 2 bassins versants contigus.
En fait, on travaille réellement sur un hydrosystème. Un hydrosystème, là, il est constitué par 2 bassins versants, celui de la rivière Pérou et le second qui est juste à côté, celui de la rivière des Pères, mais c'est bien le bassin versant de Capesterre, c'est pas celui de Basse-Terre. Hein.
Situé en grande partie dans le parc national, le bassin de Pérou, plus de 1200 hectares, ne compte que 22% de surface cultivée, alors que le bassin des Pères, beaucoup plus petit, 233 hectares, est à 62% agricole. Plusieurs facteurs vont jouer sur le transfert des molécules, la pluviométrie, plus forte en altitude, mais aussi la nature des sols.
Entre le haut et le bas du bassin versant, on a 4 km, 5 km. Eh bien, on a deux types de sols très différents. On a des endosols d'altitude et des sols brun-rouille, des nitisols. Et on s'est rendu compte qu'en termes de rétention des pesticides, et notamment de la chlordécone, ils avaient un comportement très différent, à savoir que les sols d'altitude, ils retenaient très fortement la chlordécone en grande quantité et ils la relarguaient très doucement avec la pluie. Ça veut dire qu'ils vont polluer de manière faible, mais pendant très longtemps, l'environnement. Et à l'opposé, en basse altitude, les sols argileux brun-rouille, eux, ils ont une capacité de stockage de rétention beaucoup plus faible. Mais par contre, ils vont libérer plus massivement les produits appliqués. Donc, ils vont polluer de manière plus importante, mais sur une durée plus faible.
Si cette chlordécone appliquée autrefois est toujours bien présente dans les sols, aujourd'hui, les producteurs de la zone n'utilisent quasiment plus aucun insecticide.
Sur les exploitations qui se trouvent sur le bassin versant, en fait, les trois quarts des pesticides trouvés, ce sont des herbicides.
Diane Rakotomonga, agronome au CIRAD.
Donc, le plus grand problème sur ce bassin versant, enfin, en termes de quantité utilisée, c'est les herbicides. Après, il y a les fongicides foliaires. Ça, c'est contre la sarcosporiose, les fongicides post-récolte et enfin les insecticides.
Voilà pour les pratiques actuelles. Alors, que retrouve-t-on aujourd'hui dans les rivières des deux bassins versants ? D'abord, en nombre de substances.
Les concentrations qu'on mesure dans les deux rivières, aux deux exutoires, sont effectivement suivies de façon continue depuis 2016. On travaille sur l'ensemble des pesticides. On va s'intéresser aux matières actives historiques qui ne sont plus appliquées actuellement. La chlordécone, mais aussi le HCH-bêta, qui est un métabolite, un produit de la dégradation du lindane. Ça, c'est les produits un peu historiques qu'on retrouve actuellement dans les sols et dans les eaux. Mais on s'intéresse également aux matières actives qui sont appliquées actuellement. Et ce qu'on retrouve majoritairement dans les eaux actuellement, ce sont beaucoup d'herbicides. Je veux parler du glyphosate et de son métabolite, l'AMPA, et des fongicides post-récolte.
Alors que les fongicides appliqués sur les feuilles des bananiers sont, eux, quasiment absents des rivières.
Dans la rivière des Pères, on trouve systématiquement plus de substances que dans la rivière Pérou.
Lise Ponchamp, hydrologue à l'INRA.
Ensuite, ce qu'on voit, c'est que le nombre de pesticides dans la rivière varie au cours du temps. Il y a des substances, en fait, comme la chlordécone ou le HCH qu'on retrouve encore dans les rivières aujourd'hui et systématiquement. Puis il y a des substances qu'on applique aujourd'hui qu'on trouve pas, qu'on trouve à certains moments, selon les calendriers culturaux, les calendriers de traitement. Mais finalement, c'est pas parce qu'on trouve des choses dans l'eau que ça veut dire que cette eau est polluée. Il va falloir aller regarder, en fait, la concentration de ces éléments dans l'eau. Donc la concentration, c'est bien la quantité d'une substance dans un litre d'eau.
Et les normes sont les suivantes. Au-dessus de 0,1 microgramme par litre pour un pesticide ou de 0,5 pour le cumul des produits, l'eau n'est pas potable et au-delà de 5 microgrammes par litre, elle est non traitable.
On a des normes qui sont clairement dépassées et qui prouvent qu'on a une contamination régulière et récurrente des différentes eaux de la rivière.
On voit que la rivière des Pères, qui est plus petite, est plus concentrée en pesticides.
Sur la rivière des Pères, on a des contaminations qui dépassent plus de la moitié du temps la norme de 5 microgrammes par litre.
Mais l'étude ne s'est pas arrêtée aux eaux de surface. Le Bureau de recherche géologique et minière a effectué des forages, les premiers dans la zone de Capesterre, alors qu'il existait jusqu'alors un seul point de mesure des nappes à Trois-Rivières. Et le constat est clair, les eaux souterraines sont aujourd'hui beaucoup plus contaminées par les organochlorés que celles des rivières.
Ce qu'on se rend compte par rapport aux analyses qu'on a, là où vous êtes au-dessus du microgramme par litre, nous dans les nappes à l'aval du bassin, c'est entre 40 et 50 microgrammes par litre, qu'on trouve, c'est 400 fois la norme de qualité.
Laure Ducreux, hydrogéologue régionale.
Donc aujourd'hui, la contamination, elle a migré et elle a contaminé nos nappes de manière significative. Donc c'est pour ça que par exemple les sources de Bellocado Tabaco, elles sont traitées au charbon actif. La source de Belterre à Gourbert est traitée au charbon actif. En gros, toute la ressource en eau souterraine qui était à une époque une bonne ressource nécessite un traitement très poussé pour vous apporter de l'eau correcte au robinet.
Et comme les eaux du sous-sol y séjournent durant plusieurs décennies, elles subissent aujourd'hui de plein fouet les contre-coups de la poudre maudite.
Le temps de renouvellement de ces nappes, ça peut prendre entre 25, 40, 50 ans, en tout cas pour ce qui est de l'aval du bassin. Donc finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, ça témoigne de l'époque où il y avait un épandage maximum. On a une vision du passé au travers de l'analyse qu'on peut avoir sur ces nappes.
Des nappes qui, à leur tour, polluent les cours d'eau. Alors comment produire sans polluer sur ces bassins versants? C'est le deuxième axe du projet Rivage.
Alors là, on est dans la zone du haut de Féfé, sur Capesterre. On est à plus de 400 mètres d'altitude, donc en limite avec la forêt.
L'exploitation de quelques 4 hectares est celle de Pierre Tillet, jusque-là producteur de bananes, qui n'a pas pu être présent.
Bien que ça soit une zone d'altitude, c'est une zone de production intensive où étaient appliqués des produits nématicides, insecticides, herbicides qu'on a retrouvés dans les eaux.
Et pour cause?
On est sur des endosols où on a des plus fortes concentrations en chlordécone sur le bassin versant. Ça va de 1 mg par kilo de sol plutôt dans la partie aval du bassin versant et on peut atteindre jusqu'à 30-40 mg à la partie amont, notamment dans les endosols. Et là, dans cette zone là où on est, dans des parcelles voisines, on atteint des valeurs de 40 mg par kilo de chlordécone. Donc dans le sol.
On est sur un cas particulier du bassin versant, où on est sur une zone qui va verser vers le captage de la digue, captage d'eau potable.
Conformément au code de la santé publique, le préfet a établi un périmètre de protection de ce captage.
On a des impératifs qui ont été dictés par les services de l'État, à savoir on ne doit pas mettre de pesticides pour ne pas polluer l'eau. Donc les producteurs qui sont dans ce périmètre, leur groupement leur a demandé d'arrêter la banane, parce qu'on ne savait pas trop faire de la banane sans pesticides. La première idée, ça a été donc de l'accompagner vers la sortie, en lui conseillant de se tourner vers des productions sans pesticides comme le café et le cacao. Il a planté du café et du cacao, mais le temps que ça soit productif et qu'il ait des retours, il va se passer au moins 4-5 ans.
D'où cette autre approche.
Il y a 6 mois de ça, on lui a dit, écoutez, nous, au CIRAD, on a une nouvelle variété de bananes qui peut se conduire sans pesticides. On savait aussi qu'il y avait des systèmes par le passé qui tenaient bien la route, c'était les systèmes café-banane. Et donc la banane n'est plus la culture principale, mais une plante de service qui va procurer un ombrage. Donc on a décidé avec le producteur de mettre en place un système d'association culturelle banane-café, banane-cacao. Et donc avec comme banane la Syrah 925, elle est résistante aux cercosporioses. Mais aussi, on va faire un essai avec une deuxième variété qui était cultivée par le passé en Guadeloupe, c'était la variété Poyo, un bananier de grande taille qui est une variété plus rustique du groupe Cavendish. Et donc, le projet avec M. Tillet, c'est de planter dans le mois qui vient des rejets de 925 et puis sur la fin de l'année des rejets de Poyo.
Avec un gros travail à mener pour augmenter la fertilité du sol.
C'est des sols qui ont été complètement détruits par les applications de pesticides. Il y a très peu de vers de terre, il y a très peu de prédateurs. Et donc, il faut qu'on retrouve ces équilibres. Parce qu'on est arrivé à ces problèmes de bioagresseurs qui explosent, parce qu'on est dans des systèmes extrêmement artificialisés. Le sol, il fonctionnait plus en tant que sol, il fonctionnait parce qu'on mettait des intrants chimiques. Donc si on veut retrouver des mécanismes de régulation de tous ces bioagresseurs, il faut qu'on restaure la diversité des sols. Pour de l'agroécologie, il faut qu'ils récupèrent leur statut initial. Le planteur, il a interdiction d'application des engrais chimiques, donc il va devoir fertiliser qu'avec des produits organiques. Le challenge, c'est ça, c'est d'arriver sur ces périmètres de captage à faire une agriculture propre qui garantisse en même temps une production. Ça permettra ensuite de transposer à d'autres zones, parce que là, on place vraiment la barre très haut.